Voilà, nous sommes donc aujourd'hui au cœur de ce lieu qui s'appelle la Rose des Vents, qui est une scène nationale avec sa directrice Marie Didier. Bonjour Marie.
Bonjour.
La Rose des Vents est installée depuis très longtemps en tant que scène nationale. Elle a un projet peut-être un peu particulier par rapport aux autres scènes de la région.
Moi, je crois que ce qui singularise La Rose des Vents, c'est toute une histoire d'ouverture aux scènes étrangères. C'est une histoire qui a été construite par mon prédécesseur, Didier Thibault. Donc ça pose déjà sa singularité, pas que dans le paysage régional d'ailleurs, mais dans le paysage national du réseau de théâtre de services publics. Voilà. En particulier dans le réseau des scènes nationales, certaines sont très très ouvertes vers l'étranger, l'international, mais ça reste une minorité tout de même. Voilà. Et puis, une deuxième singularité, qui est que les esthétiques défendues et programmées à la Rose des Vents depuis très longtemps sont plutôt des esthétiques très contemporaines. Voilà, c'est-à-dire que on va chercher dans la nouvelle génération d'artistes, mais pas que, hein, les propositions qui ouvrent des chemins nouveaux.
Alors effectivement, l'international, ça se vit aussi avec ce grand festival qui est le Next.
Oui, alors le Next, c'est un festival qui est très intéressant parce qu'il est co-construit. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais qui en l'occurrence est complètement organique pour ce qui est de l'organisation du festival Next, puisque ce sont trois partenaires côté français, deux à Valenciennes et un à Villeneuve-d'Ascq, donc la Rose des Vents, et deux partenaires côté belge, qui sont tous les deux basés à Courtrai, qui se réunissent régulièrement pour concevoir la programmation de ce festival international de la création contemporaine.
Voilà, et puis il y a la programmation, alors j'allais dire habituelle, mais pas tant que ça, puisque votre arrivée a été récemment contrariée par le Covid et donc la nécessité de fermer le lieu au public et préparer une saison, alors qui s'est reconstruite peut-être avec une partie de ce qui était programmé l'an dernier, et puis des choses nouvelles dans un projet qui, j'espère, va pouvoir porter votre signature de façon très concrète.
Bah, très concrètement, la saison qui s'est un petit peu, enfin, qui s'est complètement interrompue était déjà une saison que j'avais programmée à 100%. Alors elle a été malencontreusement écourtée, mais on y a retrouvé quand même des spécificités et puis des fidélités que j'ai moi avec certaines équipes artistiques ou certaines esthétiques. Il y avait notamment, et il va continuer d'y avoir, peut-être une plus grande ouverture vers des spectacles intergénérationnels. Voilà, et puis une ouverture à la danse, quoi, très très claire, et puis un intérêt très fort pour la littérature contemporaine, et puis ses connexions possibles avec les arts de la scène. Donc ça se traduit par un nouveau festival qui a eu le temps de voir le jour, pour le coup, puisqu'il se tient à la fin du mois de janvier, et on le reprend pour une deuxième édition dans le courant de la saison prochaine. Ça s'appelle le festival Dire. Voilà, qui met vraiment en valeur les écritures d'aujourd'hui, mais pas forcément les écritures dramatiques, hein, mais la poésie, la prose, le roman, le spoken word, le rap, enfin voilà, tout ce qui fait écriture.
Alors ça, effectivement, c'est votre goût pour la littérature qui change des projets précédents. Qu'est-ce qui vous a motivé par rapport à la littérature, votre formation, vos affinités avec des écrivains, pourquoi pas?
Moi, j'avais déjà, dans une précédente expérience professionnelle, fait l'expérience de résidence d'auteur sur un territoire. Voilà, résidence longue, soutenue en l'occurrence, hein, celle dont je parle, par le Conseil régional Île-de-France, qui avait et qui a toujours d'ailleurs une très forte politique de soutien aux résidences d'auteurs, des résidences qui peuvent durer jusqu'à 10-12 mois, et au cours desquelles les auteurs reçoivent des bourses qui sont assez conséquentes et qui leur permettent de se consacrer 70% de leur temps à un travail d'écriture. Et pour ce qui reste, un travail de médiation en lien avec les lieux de résidence. Donc ils peuvent être en résidence dans des collèges, ils peuvent être en résidence dans des librairies. En l'occurrence, ben là, moi, l'expérience que j'ai faite, c'était d'une autrice en résidence dans une scène nationale. Ça donnait lieu à vraiment des rencontres formidables et à une vraie imprégnation du territoire pour l'auteur, l'autrice. en l'occurrence, qui en a fait un peu la matière de son roman. Donc quand on lit son roman, on retrouve énormément de choses qui sont des expériences nées de sa résidence sur ce territoire-là. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Parce que déjà, on avait le temps de faire des choses vraiment en profondeur. L'autrice avait eu le temps de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Ça irriguait vraiment tout son travail de création littéraire. Et elle avait conçu, à la toute fin de la résidence, une performance scénique qui était, avant même la parution du livre, une sorte de livre sur scène. Voilà, si l'expression peut se comprendre. C'est-à-dire qu'on trouvait scéniquement, dans la performance, tous les ingrédients du livre à paraître. Et c'était une expérience vraiment super intéressante qui m'a amenée à m'intéresser à ce que d'autres auteurs ou autrices pouvaient proposer en complément ou en tout cas en symbiose presque avec leur travail d'écriture. Il y a plein d'auteurs qui soit chantent, soit performent, soit jouent, enfin voilà, qui sont présents, qui peuvent être présents sur scène pour dire justement leur travail de création littéraire.
Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup la Villa Montnoir, hein, qui est un espace, on va dire, du conseil départemental, il me semble, du Nord, pour la résidence d'artistes et d'écrivains, plutôt. Et ici, donc, on est plus en lien avec une scène, ce qui amène forcément des interactions.
Bah, disons que les formes qui vont être présentées sont des formes qui sont des formes scéniques. On peut avoir des concerts, on peut avoir du théâtre, on peut même avoir de la danse, hein, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans le champ du spectacle vivant et d'une adresse au public qui vient depuis la scène.
Alors, quels sont les auteurs, ou peut-être l'auteur, qui va être mis en valeur cette année à La Rose des Vents ?
Bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a un tout jeune poète lillois qu'on avait découvert lors de la première édition qui s'appelle Simon Alono, qui avait vraiment bluffé tout le monde par une présence très très spéciale et vraiment un style de poésie très dark, très drôle en même temps, une sorte de haïku un peu désespéré. On le réinvite parce que vraiment on trouve qu'il gagne à être connu, voilà, clairement. Puis c'est le rôle d'un festival aussi de faire découvrir les jeunes auteurs, les jeunes artistes. Donc lui, il n'est pas du tout connu, mais il le sera bientôt, ou de plus en plus en tout cas. On va voir dans les écrivaines un peu plus connues Chloé Delhomme, qui va créer pour le festival une performance avec deux musiciens à partir de la figure de l'héroïne de son dernier roman. On aura aussi Olivia Rosenthal, qui est aussi une autrice connue, qui a déjà beaucoup publié, qui sera là pour une performance inédite, elle aussi. Voilà, ce qu'on essaye de faire, finalement, c'est de demander aux auteurs, aux autrices, de faire un peu du sur-mesure pour le festival. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'esprit salon littéraire, festival de littérature, et ces choses-là. Hein. C'est-à-dire qu'on leur demande pas de venir signer des dédicaces ou des ouvrages à la fin du spectacle. C'est pas du tout l'esprit, c'est qu'ils puissent un peu faire des choses qui se permettent pas ailleurs. Voilà, ça c'est aussi l'esprit de La Rose des Vents, finalement, d'avoir des formes inattendues.
Voilà, donc deux temps forts, hein, on va dire le next, bien sûr, c'est en novembre, il me semble, hein, et puis en janvier, donc ce rendez-vous avec la littérature comme fil conducteur, peut-être on peut dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres grands temps forts ?
Il n'y a pas de temps fort sur un plan vraiment temporel d'un festival ou de quelque chose qui serait très rassemblé dans un temps très court, mais il y a un fil conducteur assez solide qui traverse quasiment toute la saison, avec plusieurs spectacles, avec un week-end de cinéma, des rencontres, des débats, et qui est autour de l'anticipation. Ça s'appelle « Refaire le futur ». C'est un fil rouge, en fait, hein, qui nous guide dans plusieurs approches d'artistes, hein, sur ce que seront les mondes de demain. Voilà. C'est très très vrai que le cinéma, avec le cinéma d'anticipation, a forgé vraiment dans la culture populaire une sorte d'imagerie du futur. C'est moins vrai dans le champ des arts vivants. Donc la littérature, le cinéma, ils ont réussi à inventer des histoires de demain, des mondes de demain. Science-fiction, dystopie, politique-fiction. Le théâtre, un petit peu moins. Enfin, quand je dis théâtre, c'est vraiment les arts de la scène. Donc là, on a rassemblé sept chorégraphes, metteurs en scène, vraiment des artistes de la scène qui s'interrogent vraiment sur l'état du monde et sur... alors, certains s'interrogent sur les remèdes, d'autres font vraiment de la... prospective, en essayant d'imaginer, par exemple, pour le cas de Colette Sadler, qui est une chorégraphe écossaise, elle s'imagine ce que serait une danse pour un cyborg. Donc elle est vraiment dans la grande anticipation. C'est assez bluffant, d'ailleurs. D'autres sont sur une veine plus tendre et plus rigolote, comme Philippe Ken, qui imagine toute une bande d'épouvantails assiégé dans une espèce de ZAD, ce qu'on imagine être une ZAD, parce qu'il n'y a plus d'oiseaux, donc les épouvantails ne servent plus à rien, et ils sont là pour essayer de préparer une révolution contre tous les méchants qui polluent la planète. Donc il y a quelque chose de très candide et de très naïf, mais qui en même temps dit qu'il y a aussi dans l'engagement et dans le combat quelque chose qui peut être très pacifique et très doux, mais qui n'en est pas moins puissant. Voilà, donc il y a plein de messages, hein, qui peuvent être envoyés aussi à travers cette vision du monde. Bon, voilà, il y a plein d'auteurs, il y a De La Vallée, Bidier Fono, qui s'interroge sur les utopies, l'exil, la circulation des populations aujourd'hui et demain. Voilà, on est sur des fables, on est sur de l'anticipation, donc Room with a View, hein, du Ballet National de Marseille, avec le musicien électro Ron et puis l'auteur de politique fiction Alain Damasio, ils ont aussi concocté une pièce qui s'appelle Room with a View, qui est absolument formidable, qui parle aussi des mouvements contestataires. Voilà. C'est quoi le moment où on considère que les choses sont quand même pas satisfaisantes du tout et où, d'une manière ou d'une autre, on s'engage pour les changer. Voilà. Donc dans ce fil conducteur qu'on aura principalement entre le mois de mars et le mois de juin, grosse concentration à ce moment-là, on essaiera, Alain Damasio fait partie des gens qu'on va inviter à discuter avec les spectateurs, parce qu'il a des analyses très très intéressantes sur notamment ce que c'est que la société de surveillance. Et puis d'autres penseurs, des philosophes, des activistes, des associations. Voilà, des gens qui réfléchissent à ce que peuvent être nos alternatives pour un monde meilleur. Voilà.
C'est vrai qu'il y a du travail de prospective, on peut dire, hein, et puis d'analyse aussi. Là, on sort même pas, hein, on sort, j'allais dire à peine, on n'est pas sorti d'une crise complexe. D'ailleurs, si on voit d'autres scènes, par exemple le Festival d'Avignon qui a été annulé, j'imagine que pour beaucoup de programmateurs, ça va poser des problèmes. Plein de spectacles n'auront pas été vus.
Oui, il y a vraiment des trous dans la raquette. C'est-à-dire que pour que tout l'écosystème du spectacle vivant il fonctionne, il faut trois choses. Il faut que les spectacles soient créés. Ensuite, il faut qu'ils soient vus par des professionnels. Et enfin, il faut qu'ils soient vus par le public, c'est-à-dire programmés par les professionnels qui les ont vus. Voilà. Donc là, il manque un trou énorme qui est le trou de la visibilité des spectacles qui étaient créés et qui, effectivement, pour certains, ne tourneront jamais. Il y a un deuxième trou dans la raquette qui est peut-être plus facile à rattraper puisqu'il s'agit là des conditions de production des spectacles en cours ou à venir. Où là, bon, on a quand même vu il y aura des dégâts, hein, mais on a quand même vu une mobilisation des professionnels pour abriter le plus possible les équipes en résidence. Nous, par exemple, à La Rose des Vents, dès qu'on a pu se déconfiner, donc ça, c'était quand même à la mi-mai, on a regagné nos bureaux pour travailler, et puis on a réouvert nos salles pour des équipes qui étaient en résidence de création. Et là, il y a quand même un mouvement assez porteur, hein, qui s'est fait jour, pour vraiment essayer de créer des digues autour des équipes artistiques, autant que faire se peut. Mais ça va pas résoudre l'entièreté du problème. Et puis le troisième échelon, c'est effectivement, il faut que les spectacles soient vus par le public. Donc on a eu beaucoup d'annulations, j'espère qu'on n'en aura plus d'autres. Voilà, que la rentrée partira sur des bases nouvelles.
Voilà, et puis pour les années d'après, bien sûr, on ne peut pas anticiper, même si vos auteurs vont y travailler, sur ce que sera l'économie, notamment dans la culture.
Oui, jusqu'à présent, on a nous aussi, en tant que théâtre de service public, reçu le soutien de tous nos financeurs pour 2020. Voilà, donc ce qui fait qu'on est passé quand même sous la vague et qu'on va pas se noyer, ça c'est sûr. L'avenir est incertain pour beaucoup d'entre nous. Oui, c'est clair que 2021, 2022, le choc économique de la pandémie n'est pas encore quantifiable. Et on ne sait pas du tout dans quel état les finances publiques vont ressortir de tout ça. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'argent qui est investi dans la culture, dans les arts, ben comme l'argent qui est investi dans l'éducation, dans la santé, c'est de l'argent qui n'est pas délocalisé. Vous voyez, enfin, je crois qu'il faut quand même se redire des choses qui sont de bon sens, qui sont que la culture, c'est un investissement pour l'avenir. L'éducation, c'est un investissement pour l'avenir. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire aussi, et c'est des choix politiques pour se demander ce qu'on relance. Est-ce qu'on relance ce qui relève du circuit court, ce qui relève de la proximité, ce qui relève de l'éducation, de la culture, de la santé. Ou est-ce que on relance la consommation? Voilà, les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ben, les politiques de relance, elles doivent quand même faire aussi de la prospective. Voilà. Moi, j'ai pas de leçon à donner, mais c'est vrai que nous, on sait qu'on est dans un secteur qui a été extrêmement fragilisé. C'est pas le seul, hein, mais très fragilisé. Qui va mettre longtemps à s'en remettre, mais qui a une fonction sociale forte, voilà. Donc après, moi je suis curieuse, j'attends de voir un peu les visions politiques d'ensemble et puis de détails aussi qui vont se dégager de la situation.
Alors Marie-Didier, vous avez de beaux partenariats avec des scènes belges, hein, et vous les connaissez, enfin vous les suivez ces partenaires. Est-ce que vous êtes au courant de leurs propres difficultés? Est-ce que vous voyez des différences entre le traitement fait par, les autorités chargées de la culture en France et celles en Belgique, par exemple? Je sais que les financements, subventions en Belgique sont un peu moindres dans les apports aux structures, qui comptent plus sur leur économie directe, on va dire. Est-ce qu'il y a actuellement plus de problèmes en Belgique, par exemple, à prévoir?
Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Il y a des grandes différences, c'est sûr. Il y avait déjà eu des coups durs portés à la culture par les mesures du gouvernement des Flandres de réduire drastiquement les subventions. Ça, c'était déjà avant le confinement. C'était à la fin de l'année 2019, où des coupes énormes étaient annoncées, des coupes mécaniques, qui fragilisaient énormément les compagnies, les institutions. Donc ça, c'était le premier coup dur. Le deuxième coup dur, il est plus dur pour les Belges que pour nous, effectivement, parce qu'ils sont moins subventionnés et les financements ont été un peu moins inconditionnels, on va dire, qu'ici, où ils ont quand même été, pour l'ensemble du secteur du théâtre public, assez inconditionnels. Quelques des exceptions, hein, évidemment, mais quand même des filets de sécurité qui ont bien marché. Et ils n'ont pas la même approche non plus sur le déconfinement, le retour à la vie, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'instant plus sur une approche plus rigide, voilà. C'est-à-dire que la réouverture des salles se fera certainement pas dans les mêmes conditions en Belgique qu'en France. On le voit déjà pour le cinéma où ils ont pris un peu d'avance sur le port du masque dans les salles pendant le film, voilà, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui, mais qu'il devient là de fait. Mais on voit que ils ont une approche plus sévère, hein, de ces questions de distanciation physique. Peut-être qu'on va les rejoindre sur ce plan-là. Mais c'est vrai que ça fait trois critères au moins qui font que nos camarades belges sont un peu plus fragilisés que nous.
Alors vous parliez un peu de cinéma, là, il y a quelques instants. La scène nationale à Rosévent a la chance d'avoir une salle de cinéma rien qu'à elle. Donc comment vous jouez la synergie entre la programmation spectacle vivant et puis peut-être la programmation du cinéma? Est-ce que vous avez réussi à établir des connexions, même des cohérences nouvelles?
Oui, on y arrive. On y est déjà arrivé la saison passée en invitant certains artistes de spectacle à proposer des cartes blanches au Méliès. C'est quoi le film que tu as toujours rêvé de voir, de revoir ou de programmer et de proposer à des spectateurs? Ça a très bien marché, mais on a changé d'approche pour la saison prochaine. On est parti sur une approche plus thématique. Voilà, c'est-à-dire qu'on a identifié dans la saison des choses qui pouvaient permettre au Méliès de rebondir. de faire des propositions vraiment en écho avec la programmation. Ça s'appelle, c'est toute une thématique qui s'appelle l'œil du Méliès. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a dans l'équipe du Méliès Antoine Thillard, qui est un très bon programmateur, qui a une culture cinéphilique très étendue et qui peut vraiment dénicher ce qu'on attend d'un cinéma art et essai, c'est-à-dire c'est vraiment des pépites, des choses rares, des choses étranges, des choses singulières, pas le tout venant, quoi. Et on a identifié dans la série plusieurs spectacles autour desquels soit il va présenter un film bien spécifique, soit un cycle de films. On a un spectacle notamment qui parle de la guerre d'Algérie, qui est écrit et mis en scène par deux jeunes femmes vraiment formidables, et autour duquel il va lui proposer tout un cycle sur la guerre d'Algérie, un cycle cinématographique sur la guerre d'Algérie. Voilà, par exemple, les questions de refaire le futur dont je parlais tout à l'heure vont donner lieu à un grand week-end de cinéma d'anticipation. Voilà, pendant 2-3 jours, on va vraiment pouvoir voir tous les films d'anticipation des 15, 20, 30 dernières années et puis se demander si aujourd'hui, on peut encore faire du cinéma d'anticipation. Et si oui, alors à quoi ça ressemblerait ? Voilà, donc on a un grand nombre de rendez-vous avec des connexions, ouais, entre le Méliès et puis la Rose des Vents. Ceci étant dit, le Méliès, c'est 350 films par an, c'est 1300 séances. C'est clair que c'est un cinéma qui a sa vie propre, qui suit les sorties cinématographiques, qui a une très forte activité en direction de la jeunesse, de la famille, du jeune public. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ces rendez-vous entre La Rose et le Méliès, parce que les rythmes ne sont pas les mêmes.
Voilà, donc le Méliès, je pense qu'on peut dire que c'est le cinéma art et essai qui a la plus grande fréquentation, il me semble, en région.
Alors je crois que c'est le cinéma le plus fréquenté au nord de Paris, pour un mono-écran. Voilà, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un écran au Méliès, et que cet écran reçoit, cette salle donc, reçoive 55 000 spectateurs par an. Voilà. Donc je crois que c'est le meilleur rapport écran-fréquentation de toute la région Nord.
Est-ce qu'on peut dire que la ville de Villeneuve-d'Ascq, enfin la situation de la Rose des Vents d'une manière générale et du Méliès bien sûr aussi, fait que il y a vraiment un public potentiellement très fort pour tout ce qui est un peu novateur et recherche?
Bon, je pense qu'il y a une histoire, oui, dans la ville. L'inscription de ce cinéma, de cette scène nationale, elle est ancienne. Elle s'est faite sur une ville en devenir, une ville nouvelle, où la population est arrivée plutôt jeune, active. Et évidemment, ça fabrique une culture, tout ça. Voilà, c'est quelque chose de très solide que nous, on ressent encore beaucoup dans les discussions avec le public, avec les associations et avec les partenaires. Oui, on sent qu'il y a une appropriation des lieux culturels par la population. C'est vrai pour Villeneuve-d'Ascq, c'est vrai pour toute la métropole lilloise. Où il y a, je crois, une appropriation des espaces culturels par la... Alors, on peut toujours faire mieux, on peut toujours se dire que tout le monde ne se sent pas concerné, n'est pas concerné. Mais en vérité, par rapport à bien d'autres régions, ce maillage culturel-là, il a produit quand même une appropriation, hein, globalement. Et un rapport aux institutions culturelles que, enfin, moi, je trouve assez détendu et assez peu intimidé, finalement. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire qu'avoir une grande université dans cette zone, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut miser, on peut compter ?
Oui, d'ailleurs, le public de La Rose des Vents, il est composé, et du Méliès, hein, en tout, on a 85 000 spectateurs par an, la moitié à moins de 30 ans. Voilà, donc c'est très vite fait le calcul, hein. Et quand je dis moins de 30 ans, c'est pas juste des petits gamins qui sortent avec l'école pour venir voir un spectacle ou aller au cinéma. Ça, c'est vrai, c'est une grosse partie de cette fréquentation, et c'est pour beaucoup, parce que l'école brasse quand même encore toujours très très large, mais donc tous les gamins peuvent venir voir un spectacle La Rose des Vents, un film au Méliès, et ils font leur éducation comme ça. Ils commencent leur éducation artistique et culturelle, pour certains en tout cas, par la venue au spectacle, la venue au cinéma. Mais la fréquentation des étudiants et le lien avec les étudiants, il est beaucoup plus large que cela. C'est-à-dire que ce sont vraiment des populations qui savent qu'elles peuvent venir voir une programmation qui leur correspond, qui n'est pas conventionnelle, qui est internationale, qui est très facile d'accès, je parle sur un plan financier, où les places sont pas chères du tout, et où il y a une façon d'accueillir aussi, enfin, c'est vrai que c'est important de le dire, qui est simple et qui est remplie d'hospitalité. Voilà, donc c'est vrai que c'est ce qu'on observe, et puis on espère que ça va continuer, c'est une très forte présence dans nos salles d'un public jeune, fervent, qui vient de sa propre initiative pour voilà, passer une bonne soirée, découvrir, se questionner aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ont cette incidence-là, qui les amène des questions.
Voilà, donc la curiosité intellectuelle, toujours au programme.
Oui, toujours au programme, parce qu'on n'est clairement pas dans une volonté de divertissement, même si c'est pas parce qu'on n'est pas dans une volonté que c'est pas divertissant. Il y a beaucoup de spectacles qui sont très très drôles, notamment dans la saison prochaine, y compris ceux qui parlent de futur. On a quelques dystopies vraiment très très marrantes. Maintenant, le but du jeu, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, la construction d'un imaginaire, la construction d'un esprit critique, le rapport à l'art, tout simplement, qui n'est pas le rapport à la marchandise.
Voilà, juste une dernière précision. Pendant l'été, on peut s'abonner ?
On peut s'abonner sur notre site internet pendant tout l'été.
En parlant justement des réservations, est-ce que le fait que la salle doive être aménagée par rapport au public à accueillir, ça a une incidence sur les réservations ?
On aura un petit peu moins de place à vendre que les années précédentes, évidemment, puisque là, on doit, pour l'instant en tout cas, des mesures qui sont connues, on doit respecter une distanciation entre chaque personne ou chaque groupe de personnes. Donc les gens qui viennent à plusieurs peuvent tout à fait s'asseoir ensemble, mais quelqu'un qui vient seul devra avoir un siège à sa droite et un siège à sa gauche, ce qui limite un petit peu le nombre de places, mais pas de la moitié, ça limite de 30 à 40% selon les soirées. Donc on observe, on a de toute façon une réduction du nombre de places à vendre sur l'ensemble de la saison.
Voilà, donc il est prudent de réserver, évidemment. Voilà, eh bien, vous nous avez mis l'eau à la bouche, on attend donc que la saison démarre. Merci Marie-Didier.
Merci.